Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline!
Chut, un peu de calme.
Ah, pardon.
Aujourd'hui, on prend le large.
Ah, ouais, on navigue à vue, quoi.
Cap sur par Jupiter, ouais. Tonnerre de Brest.
Oui, on reçoit Mathieu Tordeur, c'est le plus jeune explorateur de France.
Ouais, ça va, nous on explore aussi, hein, la semaine dernière, on est allé à Saint-Étienne.
Ouais, moi, je suis déjà allé à Dijon, à Lorient.
Mathieu Tordeur, il a parcouru le monde entier avec plein de moyens de transport différents.
Bah, Alex, il a parcouru le monde en trottinette.
Pas le monde, la rive gauche,
ouais,
plutôt.
Oui, mais bon, voilà.
Mathieu Tordeur, il l'a fait en autosuffisance.
Ah, bah, s'il y a bien quelqu'un qui s'autosuffit, c'est Alex.
Ça, oui.
Mais il est pas allé en Antarctique, Alex.
Non, ça non.
Voilà, lui si, et à pied, quoi.
À pied, il a dû s'emmerder.
En solitaire.
Oh la galère, mais pourquoi il fait ça?
Il a perdu un pari, peut-être.
Il était puni?
Ah, et vous savez quoi? Il paraît qu'il nous écoutait en marchant.
Oh la double peine, quoi. Tu marches tout seul par moins 50 et bim, t'as les brefs de viseur.
Incroyable, non?
Et en écoutant les chroniques de Manou, en plus, j'imagine.
Oui, le stérile Inuit.
Inuit, Charlie.
Et oh, ça va. Non, les Inuits, c'est plutôt au pôle Nord déjà.
Alors, tous les jours, inlassablement, Mathieu Tordeur accompagne le chant des baleines et son bonjour à trois cordes.
Mathieu, il est Nietzschéen dans sa transcendance.
Ouais, c'est peut-être ça le véritable exploit, hein. C'est vraiment d'écouter vos conneries tous les jours, quoi. Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'Open Space, cet endroit qui assouplit le voile de l'actualité avec le lycra de la blague. Et voici les trois informations qu'on va retirer de la vente d'ici 18h. Entre Kim Jong-un et Donald Trump, c'est l'amour fou. C'est Hanoï, capitale du Vietnam, qui va abriter leur deuxième idylle, ce qu'ils appellent pudiquement un sommet. Pour parler dénucléarisation, on est loin des anciennes relations américano-coréennes.
Oh, il a dit quoi, le chinois?
Non, il est pas chinois, il est coréen, il nous menace. C'est pas
ok, vous avez raison, j'ai explosé.
Non.
La start-up, c'est ma petite entreprise cool avec des poufs colorés et des baby-foot. Sauf que la start-up exige une croissance ultra rapide et donc des employés particulièrement endurants.
Réponds-moi direct, est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Est-ce que tu acceptes de travailler le dimanche, à faire n'importe quoi pour n'importe qui? Est-ce que ça te pose un problème de plus avoir aucune de tes soirées?
De plus en plus de vacanciers voyagent en solo. La génération Erasmus est habituée à voyager seule, puis il y a l'augmentation du nombre de célibataires. Donc les tour opérateurs adaptent leurs offres.
Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer. Du coup, j'ai mangé les 12 douzaines d'huîtres.
Voyage gastronomique, donc. Lui, il se retrouve solo quand il a prévu des vacances, mais qu'il a oublié son passeport à la maison. Bonjour Alex Vizorek.
Mais n'hésitez pas à raconter ma vie, hein, y a pas de problème. Les gens sont demandeurs. Vous voulez que je raconte la vente à vos vacances?
C'est pas intime, ça, ça va.
Autour de la table, une belle équipe, évidemment. À 17h20, le titre de son spectacle, c'est « Je demande la route ». Autant vous dire qu'elle va bien s'entendre avec notre invité qui adore marcher, Sirou Kiatawedraogo. Bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bonnet du chef.
Du bonnet du chef, très bien. À 17h30, quand il revient tôt dans le bureau, c'est qu'il a choisi un sujet islam. Eh bien, ce matin, il est arrivé largement avant midi. Bonjour Guillaume Meurice.
Ça n'a pas loupé, bonjour à tous. Eh ben, je vais vous parler de la polémique. J'adore les polémiques. L'affaire du hijab de sport de Décathlon, je suis allé voir des Français qui font bien la différence entre musulmans et extrémistes.
Je les mets dans le même sac.
Voilà.
Ils ont du mal, mais ils essayent bien de faire la différence toujours.
Et enfin, 17h40, celui qui voyage également seul pendant de longues heures, mais dans sa tête. Et c'est un sacré périple. Bonjour Hippolyte Girardot.
Ben bonjour, bonjour. J'ai parlé d'immersion.
Très bien.
Et voici celui qui va effectuer avec nous une traversée de l'actu. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Mathieu Tordeur.
Yes, oui. Il est là.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek...
Par Jupiter.
Bienvenue Mathieu Tordeur. Dimanche 13 janvier à 12h15, vous devenez le premier Français et le plus jeune explorateur au monde à avoir relié la côte terrestre de l'Antarctique au pôle sud en solitaire. Et sans ravitaillement.
Exactement.
C'est exact.
C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de conditions. C'est vrai que t'es en solitaire, sans assistance, ça veut dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, donc que à la force des jambes finalement. Et sans ravitaillement, donc il n'y avait pas de nourriture qui avait été planquée sur le chemin. Mais donc je tirais dans un grand traîneau tout ce dont j'avais besoin.
Mathieu Tordeur, mais pourquoi vous faites ça?
C'est vrai que c'est la bonne question.
C'est vrai que c'est la question finalement. Pourquoi? Alors en fait, ça répondait. C'était deux motivations. La première, c'était que je suis fasciné par l'Antarctique et le pôle sud depuis que je suis jeune. Et je voulais en fait fait voir de mes propres yeux ce continent que je ne connaissais que par des livres, par des films. Donc il y avait un peu cet appel de l'Antarctique.
Et alors déçu ou pas? C'est essentiellement blanc, c'est du blanc?
C'est essentiellement blanc, c'est un désert. Donc, pour le coup, je savais un peu à quoi m'attendre. Mais la deuxième motivation, elle était un petit peu plus personnelle, c'était que je voulais faire l'expérience de la solitude sur 2 mois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quasiment devenu un luxe et je me disais que c'était un petit peu une bonne occasion de faire ça dans un environnement aussi désert, aussi isolé que l'Antarctique.
Oui. C'est un métier explorateur aujourd'hui? C'est votre métier, parce que vous n'êtes pas à votre premier exploit. Hein. Il y a eu la traversée, alors je les confonds, traversée en 4L pour le microcrédit,
exactement,
c'est relié la Chine au Pakistan.
Ouais. Il y en a eu plusieurs, c'est vrai, ça fait un petit peu 10 ans maintenant que je pars à l'aventure en 4L, à pied, à vélo, en kayak, en moto. Je multiplie un petit peu les destinations et les moyens de transport. Donc je ne sais pas si c'est un vrai métier. Moi, je me considère plus comme un aventurier. Pour moi, les explorateurs, c'est vraiment des gens qui vont aller explorer un terrain inconnu. Moi, je fais pas ça. Je vais vraiment vivre des aventures pour les partager ensuite en film, en documentaire, en livre, en conférence. Donc c'est un métier, moi je me considère plus comme un aventurier et un peu multicasquette parce que je fais un petit peu des films, des livres et des conférences.
Oui. Alors quand vous reliez par exemple la Chine au Pakistan à vélo, ou que vous traversez l'Asie centrale en 4L, il y a des paysages, il y a des gens. Ici, en Antarctique...
Il n'y a personne.
Voilà, alors ma question c'est qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sent ou ne sent pas? Qu'est-ce qu'on entend ou n'entend pas? Comment décrire ça?
Ouais, l'Antarctique, c'est un continent qui est très monotone parce que il y a des chaînes de montagnes, mais pour le reste, c'est surtout du désert. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout de la glace, de la neige. On voit tout le temps le ciel et la surface, mais c'est un peu comme sur un océan. C'est-à-dire, on est au milieu de l'océan, on fait un tour autour de soi, on est vraiment isolé dans cette immensité. La neige ou la surface, elle peut être différente en fonction de l'endroit où on se trouve parce que le vent sculpte un peu la glace et donc ça crée un petit peu des vagues glacées qu'on appelle les sastrugi. Ça, c'est un problème parfois quand on tire un traîneau de 115 kilos et qu'on veut passer parce qu'il faut éviter ces espèces de bosses. Ça, c'est pour le paysage. Pour les odeurs, c'est très stérile comme environnement. Il y a très peu d'odeurs. Il y a très peu de couleurs aussi. C'est vraiment du bleu, du blanc, mais c'est un peu une autre planète.
Mais pas un bistrot, rien.
Il y a des animaux, mais ils sont sur la côte du continent antarctique, ces animaux marins, et les seuls hommes qu'il y a, c'est sur des bases scientifiques.
Il y a un moment où vous vous dites, à quel moment vous vous dites, là, ça va quand même être encore bien long.
En fait, je réfléchissais pas comme ça. Je prenais vraiment chaque jour comme il venait. L'objectif, c'était d'aller au pôle sud en 50 jours, parce que j'avais 50 jours de nourriture. Et penser vraiment à l'objectif final, dès le début, c'est quasiment surhumain, inhumain, parce qu'on se dit, ça peut pas possible que je vais pas pouvoir faire ça pendant 2 mois.
Vous mettez les petits objectifs au jour le jour.
Exactement. Ouais. En revanche, quand on se fixe des petits objectifs, quand on se fixe la prochaine pause chocolat ou le prochain déjeuner.
C'est comme moi. Ouais. C'est comme moi, la machine à café.
Ça fonctionne. Ça marche dans la vraie vie aussi.
Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est peut-être une connerie, avoir peur, quelque chose comme ça qui...
Non, alors c'est vrai qu'on a le temps de réfléchir et de se questionner, mais jamais je me suis dit que c'était une bêtise. Il y a eu des moments qui étaient très difficiles, évidemment, parce qu'en Antarctique, il y a du vent violent, il fait quand même très froid, il y a des crevasses, il y a des whiteouts, c'est-à-dire des brouillards blancs où on se sent complètement... sans repère, et donc c'est vrai qu'il y a des moments où il faut trouver la ressource mentale et intérieure pour continuer de mettre un ski devant l'autre, mais jamais je me suis dit ça va pas le faire, je vais pas atteindre le pôle sud. En revanche, j'ai envisagé de demander une assistance de nourriture parce que les conditions étaient très compliquées cette année, il a fait assez chaud et j'ai été beaucoup plus lent que ce que j'imaginais parce que la neige était molle, et pour faire très rapide, quand la neige est molle, eh bien le traîneau s'enfonce dans la neige, les skis aussi, et puis on est plus lent. Donc la poudreuse, c'est bien dans les Alpes quand on est on part faire du ski, mais quand on essaie d'aller au pôle sud,
il a fait plus chaud, on est baigné dans ces questionnements sur le climat. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Vous l'avez senti sous vos skis et vous avez été ralenti par ça?
Alors moi, j'ai pas d'élément de comparaison, c'est la première fois que j'allais en Antarctique, mais j'ai évidemment posé la question aux météorologues qui bossaient au pôle sud et sur la côte du continent que j'ai pu rencontrer pendant mon expédition, pour leur demander est-ce que effectivement il y a un lien avec le réchauffement climatique, parce que moi j'ai eu du -5 degrés pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, et j'étais équipé pour des températures qui étaient 10 fois inférieures pour du -50. Et il se trouve que il a beaucoup neigé. Il neige très peu en Antarctique, c'est censé être le continent le plus sec du monde. Et là, il y avait 30 ou 40 cm de poudreuse, je le disais, et il faudrait que ça s'observe tous les ans pour vraiment établir un lien avec le réchauffement climatique, en tout cas sur le continent. Après, ce qui est vrai, c'est que l'Antarctique subit de plein fouet le réchauffement parce qu'on voit des pans de glace, des glaciers qui se détachent du continent et qui partent à la dérive. En revanche, sur le continent, moi, les météorologues m'ont dit qu'ils observaient ce phénomène et il fallait que ça se confirme pour le lier directement au réchauffement.
Pour conclure cette première partie, vous n'avez vraiment rien croisé de vivant ?
quand même pas à ce point-là.
J'ai rien croisé de vivant, sauf des touristes asiatiques en 4x4 au milieu de la traversée. Ouais.
Excellent. Du pont de Ligonnès. Charmant.
Ah oui.
C'était vraiment 36 jours de solitude qui ont été interrompus par justement
un 4x4, c'est horrible.
Alors, modifié évidemment, donc avec des énormes.
L'angoisse, quand vous avez, parce que dans le silence complet, vous nous parliez du silence et du fait qu'il n'y ait pas d'odeur et pas de parfum. Quand vous entendez ça, c'est une hallucination.
Déjà, on voit des gros points noirs à l'horizon, donc on se demande ce que c'est, on se demande si on n'est pas taré parce qu'on a vu personne pendant 36 jours. Et moi, je voyais ces gros points noirs, ces points noirs grossir au fur et à mesure, et j'ai réalisé que c'était 4x4 que j'avais vu en fait au départ, et donc j'étais pas étonné, mais il se trouve qu'on était un peu sur le même cap, et c'est des 4x4
modifiés. Ça se fait renverser par une bagnole
en plein milieu d'un désert. L'article, c'est vraiment pas de peau, quoi. À droite, à gauche, où est-ce qu'il va se con?
Il n'y a pas la tentation de se dire, vous pouvez me déposer quand même un petit peu plus loin?
Un petit peu, heureusement, on s'est croisés, on allait chacun dans un sens.
L'explorateur Mathieu Tordeur, donc, on pourra voir un documentaire le 5 juin sur Ushuaïa TV. Voir les images de cette épopée donc dans l'Antarctique et au pôle sud en solitaire et sans ravitaillement et avec un caleçon. Deux. Papa's got a brand new bag, et lui, dans son bag, il n'y avait pas grand-chose, parce que Mathieu Tordeur est le plus jeune explorateur au monde à avoir relié la côte terrestre de l'Antarctique au pôle sud en solitaire, à pied et sans ravitaillement. Ça se pose là.
Parfois, on trouve que les invités, ils exagèrent un peu, ils en se coupent pas eu, ils écrivent 4 pages et viennent nous en parler. Ici, on a un mec qui a bossé.
Et qui va se secouer aussi autour de Mathieu
Tordeur? Alors ça, par contre, je peux pas trop vous en parler de l'intimité de chacun, mais il y a Rukyata Wedaogo, il y a Guillaume Meurice et il y a Hippolyte Girardot.
Allez, on secoue l'info au moins. Allez, plus belle reste en bas, sinon, oui.
S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
Après une semaine en détention, Alexandre Benalla sort de prison, heureux et soulagé.
Et ce n'est pas la première fois qu'un type sort heureux et soulagé d'une maison close.
Après après une violente polémique de plusieurs heures.
Ah oui, c'est pas fini encore.
Alex Vizorek. Non, pardon.
Non, Décathlon, il y a Décathlon.
Décathlon, c'est Décathlon.
Les polémiques vont trop vite là.
Ouais, non, c'est trop, voilà. Après une violente polémique de plusieurs heures, Décathlon a annoncé mardi soir le retrait du hijab de running que la marque souhaitait commercialiser en France.
Eh oui, Décathlon a retiré de la vente le hijab de sport, mais je leur fais confiance pour se mettre à commercialiser très rapidement la veste réversible, Décathlon.
Et les brèves.
Oui, je suis heureux et soulagé de vous annoncer qu'il y aura des brèves.
Nous, un peu moins, enfin, il y a moins d'enthousiasme, il y a l'air content.
Commençons donc par les premiers mots d'Alexandre Benalla à sa sortie de prison.
Oui, je suis heureux et soulagé, et aussi merci à mon avocate de s'être battue jusqu'au bout.
Oui, alors que ton avocate n'aurait jamais eu à se battre jusqu'au bout si tu ne t'étais pas battue au début.
Passons au président de la République. Au sujet des gilets jaunes, Emmanuel Macron a déclaré « Lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire ». Faites pas de vannes, non?
Non, je ne voudrais pas que les gens puissent penser que je suis anti-macroniste. Alors, faut pas faire que c'est vous qui la fassiez.
Bah, pourquoi moi je la ferais?
Parce que vous, les gens savent que vous l'êtes. Donc, on recommande dans l'autre sens. Ouais. Macron a déclaré, lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire.
Bah, il a demandé enfin que les CRS sont trop violents dans les manifs. Et tout,
ouais,
voilà.
C'est excellent. Il y avait aussi, je savais pas que les gilets jaunes qui manifestaient le samedi vendaient des armes à l'Arabie Saoudite.
Ah, bah, ça vous
reprend, là. Zut, j'ai pas tenu.
C'est anti-macroniste.
Ouais, j'ai pas tenu.
Voilà. Bon, de toute façon, ils s'en fichent, car la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe sont en hausse au mois de février.
Et voilà, un formidable message d'espoir pour Vincent Lambert. Voilà.
Alors, d'un président à l'autre, le livre de François Hollande sera bientôt réédité et il contiendra un nouveau chapitre sur les gilets jaunes.
Et oui, on espère qu'il sera fabriqué en papier recyclé parce que François Hollande, c'est le roi de la récup.
C'est vrai qu'il surfe sur tout.
Le Kelly Slater de la politique.
Passons à autre chose, on a écouté l'antenne ce matin.
Oui, toujours intéressant d'écouter France Inter. Hein, parce que voilà, parfois vous passez à côté, mais il se passe des choses, notamment à la matinale. Mathieu Vidard et son édito carré, ce matin le thème.
Vous nous parlez des mœurs très particulières du canard.
Oui, et ce grâce aux recherches menées par l'ornithologue américaine Patricia Brennan, qui a fait de la sexualité du canard son principal sujet d'étude.
Voilà, on apprend déjà qu'il y a une dame qui a consacré sa vie à la sexualité du canard, et elle a bien fait.
Le mâle entre dans une période d'érection dite explosive. En moins d'une demi-seconde, l'oiseau déploie sans prévenir son organe en forme de tire-bouchon. Les scientifiques ont enregistré des mensurations qui dépassent l'entendement. C'est ainsi qu'a été déniché dans les lacs argentins un petit canard qui possède un véritable attribut de pornostar avec une longueur atteignant les 42 cm.
Bah 42, ça fait rêver. Eh ben le meilleur est à venir.
Chez les canards colverts, littéralement enivrés par le gonflement de leurs testicules qui augmente de 220 fois leur volume.
220 fois. Imaginez si les couilles de Nicolas Hulot avaient connu ça quand il était ministre de l'écologie, on aurait tous des toilettes sèches.
Allez, les brèves.
Allez, les brèves. Japon, un enfant né à 268 grammes, le bébé quitte l'hôpital en bonne santé. Et les médecins auraient d'ailleurs déclaré jamais vu un spermatozoïde aussi en forme.
La dernière.
Et la dernière Gers, un chasseur vise un sanglier. Il tire sur une voiture avec trois enfants à bord. On est à un stade où les chasseurs renouvellent plus vite les bévues que moi les vannes sur le sujet. Donc je peux en faire.
Merci Alex, l'explorateur Mathieu Tordeur avec nous. On va aborder ce premier sujet de politique internationale. 8 mois après leur premier rendez-vous à Singapour, Kim Jong-un et Donald Trump se retrouvent aujourd'hui à Hanoï. Le thème de leur rencontre, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et quand ces deux-là se rencontrent, on se dit que c'est sacrément flippant en 2019. Voici un extrait de leur dialogue.
Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive.
Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens.
Si.
Non.
Si.
Oh non.
Si.
Non.
Si.
Non.
Si.
Non. Ce n'est pas une question de moyens. Point à la ligne.
Si.
Non.
Si.
Gérard Darmon et Dieudonné dans Astérix, Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat. Première question avant d'expliquer à nos auditeurs pourquoi nous allons sur ce terrain de la rencontre Donald Trump-Kim Jong-un, qui vous concerne un peu, on va le raconter. Quelle réflexion ça déclenche chez vous de voir Trump et Kim Jong-un qui s'entendent comme larrons en foire? Quand vous voyez les images des deux, qu'est-ce que vous vous dites tout?
Déjà, je les imagine un petit peu tous les deux. Je me dis que ça va être un petit peu le concours de qui a la plus belle coiffure. Mais non, mais Je sais pas trop. Je pense que le fait qu'il y ait un rapprochement, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai que c'est deux personnalités plutôt assez explosives. Donc, faut voir comment ça évolue.
Assez clownesque aussi, peut-être.
Ouais. Ça porte.
Est-ce que vous êtes coupé totalement de l'actualité quand vous êtes parti aussi longtemps? Ouais. Parce que peut-être ils s'entendaient pas avant que vous partiez.
Comme ça change tout le temps, c'est vrai que ça aurait pu être une possibilité. Mais non, j'avais pas. J'envoyais du contenu tous les jours sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour que les gens puissent me suivre. En revanche, moi, j'avais pas accès à l'internet et je pouvais pas avoir de nouvelles.
Alors, Mathieu Tordeur, on a choisi ce sujet notamment aussi parce que vous avez participé à un marathon en Corée du Nord. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Déjà, un marathon, ça se pose là, mais en Corée du Nord. Alors, évidemment, très encadré parce que c'est... Voilà. Mais qu'avez-vous vu là-bas?
Le marathon en Corée du Nord, c'était un petit peu le point d'orgue de mon voyage en Corée du Nord. Je suis resté une semaine seulement, hein, mais c'est le seul moment, en fait, où on peut... Enfin, où on est libre. On n'est pas... On n'a pas de guide qui vous suit. On peut vraiment...
Vous courez trop vite.
Non, mais... Il y a deux choses qui sont assez étonnantes sur le marathon de Pyongyang. C'est que la première, on est obligé de terminer en moins de 4 heures parce que en fait, il y a l'arrivée qui se fait dans un stade. Et pour pas qu'il y ait des touristes étrangers qui se dispatchent trop dans la ville, et il faut qu'ils arrivent à une certaine heure. Moi, j'avais jamais couru une marathon en 4 heures, donc j'avais un peu la pression. Et la deuxième, c'est que oui, c'est le seul moment où en Corée du Nord, en fait, on est un peu tout seul et on court avec les Nord-Coréens. Donc, le voyage en Corée du Nord, c'est une expérience en soi, hyper intéressante parce que c'est vraiment un pays totalitaire.
Après, en courant, on a le temps d'apprécier le paysage ou pas? Parce que vous êtes quand même centré sur l'effort.
Un petit peu, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était plutôt un petit peu la pseudo-relation qu'on avait avec les Nord-Coréens, parce qu'on courait pas qu'entre étrangers, on était aussi avec les Nord-Coréens. Et là, il y avait quelque chose, une petite alchimie qui s'était créée entre les Nord-Coréens et les étrangers, parce qu'on fait tous un marathon, on court tous, on est tous dans l'effort, et puis finalement, il y a les valeurs du sport qui sont un petit peu au-dessus de tout parce qu'on se tape dans le dos, parce qu'on se file une barre de chocolat s'il faut. Moi, je me souviens, j'ai échangé une bouteille d'eau avec un Nord-Coréen. Ça paraît un peu anodin, mais dans un pays comme la Corée du Nord, c'était assez nouveau. Et en tout cas, dans ma semaine là-bas, c'était un peu le moment fort du voyage.
Il y a beaucoup de photos sur votre site. Je vous conseille le site de Mathieu Tordeur pour vous faire une idée de toutes ces aventures, bien sûr. Quand on prend des photos, on est un peu considéré comme suspect.
C'est un peu borderline, parce que normalement, il y a des photos qui ne sont pas autorisées vraiment. Par exemple, faire des photos des gares, faire des photos des policiers, on n'a pas le droit de les faire. Donc, moi, j'étais assez discret, j'ai réussi à en faire quelques-unes. Mais c'est vrai, quand on se balade, on a toujours un guide qui ouvre, un guide qui ferme pour ne pas perdre des gens, mais aussi pour vérifier que tout le monde se comporte bien. Aussi pour que chaque guide vérifie sur l'autre guide s'ils ne disent pas des saletés sur le régime. Donc, c'est quand même un climat très pesant. Hein. Il faut dire que quand je suis retourné.
C'est bien organisé, on peut dire.
Mais c'est très bien organisé.
C'est ce qu'on voit sur vos photos, Mathieu Tordeur. Ce qui frappe quand on les regarde, c'est que tout est extrêmement propre, rangé, droit, soigné. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est flippant. Que nous, on peut râler parce qu'on voit un papier par terre, mais que finalement, le papier par terre est rassurant s'il est là.
Et après ce qu'il y a sur mon site, c'est que ce que j'ai vu moi, donc c'est que la réalité qu'ils veulent bien nous montrer. Faut bien avoir conscience que c'est pas la réalité de la Corée du Nord que j'ai vue. Si on autorise des touristes étrangers à aller en Corée du Nord pour faire un marathon ou aller visiter Pyongyang ou d'autres villes, c'est parce qu'on nous montre que le vernis, que la surface.
Bien sûr. Eh bien, allez voir les photos de Mathieu Tordeur sur toutes ses expéditions, et notamment en Antarctique, car il en revient à peine. À côté de vous, allons géographiquement dans une contrée beaucoup plus chaude, avec Rukyata Ouedraogo.
C'est moi. En Afrique, nous avons le respect des anciens, garant de la tradition et porteur de la sagesse ancestrale que véhiculent les rares et précieuses paroles. Ils savent faire les justes arbitrages et prendre les décisions utiles à la communauté. C'est beau, non?
C'est magnifique.
Il ne manque plus que le léopard mollement allongé sur la branche d'un baobab, trônant sur une savane enveloppée dans la douce lumière dorée des magnifiques couchers de soleil. Oh nature triomphante, oh Afrique éternelle. Je blague. Les derniers léopards sont dans le viseur des derniers braconniers, dont il faudrait d'ailleurs envisager la reconversion après l'effondrement de la dernière espèce. Quant aux vieux chefs, eux, attention, je ne parle pas des chefs de villages traditionnels qui se battent au quotidien pour leur communauté. Non. Je parle des gros vieux chefs qui passent leur temps et le nôtre dans leur palais présidentiel à s'accrocher à leur fauteuil en bradant leurs bijoux de famille, pétrole, or, métaux rares, forêts primaires, gestion des ports, etc. Pourtant, ce qui fait la richesse et l'avenir de l'Afrique, ce ne sont pas ses bijoux de famille. Non. C'est sa jeunesse. Cette jeunesse remuante et impatiente pourrait bien, à la faveur d'un printemps, bousculer un peu les vieux chefs s'ils s'avèrent incapables d'arbitrer justement et de décider utilement. Imprévisible jeunesse. Un vieux mâle dominant, ça peut chuter. Ça peut se casser un os et perdre son bonnet du chef. C'est arrivé chez moi en 2014. En France, c'est différent. C'est un jeune président qui s'accroche à un cocotier secoué par une population vieillissante. Car de vous à moi, le mouvement des gilets jaunes est plus l'expression d'une colère du second, voire du troisième âge que du premier. Mais un autre mouvement, la grève scolaire hebdomadaire des jeunes européens contre le réchauffement climatique, devrait aussi attirer notre attention. Certes, quand elles ne traduisent pas une certaine confusion mentale, hashtag le pacte de Marrakech, hashtag on fout le feu à l'Assemblée nationale, hashtag les juifs dehors, hashtag la terre est plate, les revendications des gilets jaunes sont évidemment légitimes. D'ailleurs, exigences sociales et écologiques sont complémentaires. Mais je vous parie un poulet braisé que, dans 50 ans, le plus gros des défis, les plus urgents seront les questions de réchauffement climatique et d'avenir commun durable. Les étudiants aujourd'hui l'ont bien compris. Et si la sagesse avait changé de camp et était maintenant aux côtés de la jeunesse ? C'est beau, non ? Il ne manque plus que le visage en gros plan d'une jeune étudiante de 20 ans regardant vers l'avenir, l'œil confiant et le sourire aux lèvres, enveloppée dans la douce lumière dorée des magnifiques levées de soleil. Oh, jeunesse éternelle ! Oh, humanité sauvée ! Mais quand un jeune président use son vieux ministre de l'écologie jusqu'à la démission, nous nous demandons si le manque de clairvoyance est lié à l'âge des chefs ou à l'exercice du pouvoir lui-même. Car, comme dit tonton Théophraste, quand le bonnet du chef est trop grand pour sa tête, il finit par lui tomber sur les yeux. Et c'est généralement la cause de son aveuglement.
Rukyata Ouedraogo, merci. Vous jouez votre spectacle à Sainte-Geneviève-des-Bois le 8 mars, journée de la femme, et à Villeneuve-Saint-Georges le 15 mars, Je demande la route, ça s'appelle.
Merci.
Mathieu Tordeur est avec nous. C'est l'explorateur, le premier français et le plus jeune explorateur au monde à avoir relié la côte terrestre de l'Antarctique au pôle sud en solitaire, sans ravitaillement, à pied. Mais un peu avec par Jupiter, il paraît. C'est qu'est dingue. C'est
grâce
fou, c'est fou. Et les podcasts de France Culture, nous a-t-il dit, on est très fiers. Vous êtes sur France Inter.
À certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire de ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une Jaguar noire. Tu veux partir à ta poursuite, tu joues la fille de l'air. À chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs d'éther. Et de son miroir. Mais moi, tel un vieux pharaon,
Je pèse le pour et le contre. Car lorsque tu franchis le pont, les fantômes viennent à ta rencontre.
Nuit fantôme de Liminianas sur France Inter, par Jupiter, avec Mathieu Tordeur, son expédition en Antarctique au pôle Sud. Vous pourrez la voir sur Ushuaïa TV le 5 juin. Il y a aussi un livre qui est paru sur votre tour du monde du microcrédit en 4L avec Nicolas Aubert. C'est paru en 2016 aux éditions Magellan et compagnie, bien sûr. Mathieu Tordeur de la Société des Explorateurs avec nous. Autre type d'exploration urbaine et iconoclaste, mais néanmoins passionnante, Guillaume Meurice.
Oui, puisque la République est une fois de plus frappée en plein cœur hier avec ces images terribles, la classe politique sous le choc, la barbarie est de retour dans notre beau pays. Et en effet, un hijab de sport a été mis en vente par Decathlon. Voilà, vous avez bien entendu, donc un hijab de sport, micro-alvéolé, 92% polyester, 8% élastane. On attend la revendication de Daesh pour en savoir plus sur le lavage en machine. Rien que d'en parler, ça me fout la chair de tagine au poulet. Défier ainsi les valeurs de la République, c'est inacceptable. Rappelons-le, s'attaquer au sport. Alors que Charline a pris une carte à la salle pour y aller une fois par an. C'est vraiment de la provocation. On est avec vous, Charline, on lâchera pas. Si vous lâchez, ça veut dire qu'ils ont gagné, n'oubliez pas. Alors rassurez-vous, suite au scandale, Decathlon a retiré son article de la vente. Mais la cicatrice reste profonde pour un peuple de France traumatisé. Je suis donc allé à son chevet ce matin, parce que ça fait partie de ma mission de service public.
Vous attendez,
soigner les âmes. Et on commence avec ce monsieur sous le choc, mais soulagé.
Ben, je suis très content que ça soit retiré. Quand on fait du sport, on n'affiche pas ses convictions. Le sport, c'est la liberté pour tous et d'avoir la liberté pour les femmes.
Est-ce que la liberté, c'est pas de pouvoir s'habiller comme on veut ?
Ben, y a des limites en France.
Mais est-ce qu'en France, c'est interdit ?
Non, c'est pas interdit.
Non, mais est-ce que c'est pas un problème d'interdire quelque chose qui n'est pas interdit par la loi ?
Bah, écoutez, on commence comme ça et on ne sait pas où on finit.
Peut-être un jour, il y aura des babouches de running ?
Voilà.
Voilà, évidemment, le risque est grand d'avoir des babouches de running. Et puis après, vous connaissez l'escalade, le kéfier de badminton, le turban de curling. Donc méfions-nous. D'ailleurs, puisqu'on parle de sport et de vêtements, j'ai rencontré un autre Français.
Ils ont qu'à acheter une combinaison de plongée, puis ils ont leur niqab, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier ? Non, si tu veux rentrer ici, et puis tu veux rester chez toi, entre vous. Écoutez, je crois que... De toute manière, ce que je pourrais en dire, ce serait pas publié, donc ça sert à rien qu'on continue.
Ah voilà, ça c'est le problème du Français qui est trop modeste. Il ne croit pas assez en son potentiel, mais moi j'ai tout de suite senti que c'était un homme de solution que j'avais devant moi. On remplace le niqab par une combinaison de plongée, ça au concours Lépine, c'est premier prix, avec la mention du commandant Mohamed Cousteau. Alors, ce monsieur, il était non seulement contre le voile, mais également contre les hommes en djellaba, parce qu'il en a rencontré.
Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, le mec ? Je dis, dans quoi il va bosser dans ces conditions ? Il est juste là pour exister en France, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'il apporte à la communauté, ce mec-là ?
Bah, si ça se trouve, il est ingénieur.
Peut-être.
Si ça se trouve, il est médecin.
Oui, oui.
Si ça se trouve, il peut vous sauver la vie si vous faites renverser par une bagnole.
Oui. Il va me sauver la vie. Il me laisse mourir, c'est pas grave.
Voilà, des gens qui préfèrent mourir plutôt que d'être soignés par un homme en djellaba. Elle est là, la fierté de ce pays, ce sens du sacrifice bien français. Alors, j'ai pas osé lui dire que Louis Pasteur était barbu, parce qu'il aurait pas fait son rappel BCG. Parce que lui, il aime les gens qui ont le look de chez nous.
Chez eux, ils font ce qu'ils veulent, mais quand je dis chez eux, c'est les gens qui portent. Le voile, etc., effectivement, ils n'ont rien à faire ici. Voilà.
Ah bah, y a des musulmans qui habitent en France quand même, non ?
Qui y habitent, oui. Moi, je ne suis pas raciste.
Voilà. Et en plus, il n'est pas raciste.
Hein.
C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'est pas raciste du tout. Il aurait pu, mais non. Non. Alors, je ne dis pas qu'il a un poster de Malcolm X dans sa chambre, mais il n'est pas raciste. Il veut juste que les femmes puissent s'habiller comme lui, il a envie, bien sûr. D'ailleurs, les femmes, j'en ai rencontré aussi.
Moi, quand je vais à l'étranger, si les gens ont un uniforme ou quelque chose, je fais la même chose. Mais je ne l'impose pas.
Mais les femmes qui portent le voile, est-ce qu'elles vous imposent vraiment quelque chose ?
D'ailleurs, j'en connais pas.
Voilà, c'est mieux de se tenir à l'écart, évidemment. Je vous rappelle que la religion musulmane est contagieuse. Vous écoutez du Faudel, hop, hein, le lendemain, vous faites une prière sur votre tapis de bain. Mathieu, hein, vous êtes tombé dedans. J'ai vu les images de votre burqa, là, au pôle sud. On voit que les yeux, c'est dramatique. Salaud, ils vous ont eu, hein, avec leur mosquée igloo. C'est vraiment une maladie grave, hein. D'ailleurs, ce monsieur a peur d'attraper cette maladie.
Ça me paraît pas normal parce que on est quand même en France, on est pas, ils sont pas chez eux, enfin pas entièrement.
Ils sont pas entièrement chez eux.
C'est un pays qui s'appelle la France, qui s'appelle pas encore. Il s'appellera, quand je serai mort, il s'appellera autrement.
Voilà, il avait envie de dire quelque chose.
La musulmanie, c'est bon. Ou la Wallonie, vu comment ils nous colonisent, hein, ceux-là. Il y a qu'à voir Vizorek, le Leni Riefenstahl du point Godwin.
Il est partout, c'est flippant. Concluons avec ce même monsieur qui, selon lui, défend vaillamment la laïcité. D'ailleurs, la laïcité, qu'est-ce que c'est la laïcité?
Je sais pas à quel point de vue vous voulez dire par laïcité.
Le mot laïcité.
Ah, le mot laïcité.
La définition, quoi.
Laïcité par rapport à religieux ou par rapport à quoi?
Ah bah, laïcité par rapport à religieux, ouais.
Moi, je pense que... Je vois pas ce que vous attendez de moi.
Bah, la définition de la laïcité.
J'ai pas de définition de laïcité, je vous donne la...
Est-ce que vous vous définissez comme laïque?
Oui, bien sûr.
Mais vous connaissez pas la définition de la laïcité?
Non, pas forcément.
Voilà, on va pas commencer non plus à s'emmerder avec les mots et ce qu'ils veulent dire. Bref, vous l'avez compris, la République a encore une fois été frappée en plein cœur par des gens qui n'ont toujours pas bien pigé le principe de la laïcité.
Guillaume Meurice, merci. Et donc ça a été très vite ce matin pour trouver ces gens.
Bah là, l'islamophobie, ouais. C'est malheureusement... Ouais. C'est pas très long.
Merci Guillaume. Enfin, merci.
Oui, enfin, voilà.
C'est jamais sûr de dire merci dans ces cas-là. 17h43 sur France Inter, en compagnie de Mathieu Tordeur, l'explorateur. À venir, Hippolyte Girardot, et abordons ce sujet. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans une start-up, semble-t-il, parce que ce sont des structures au départ fragiles, peu rentables et qui demandent donc une croissance ultra rapide. Alors, on se fait une idée du quotidien des employés dans ces cas-là. Il faut être autonome, polyvalent, flexible et même résilient. On ne vous parle même pas d'ambition, cela, ça va de soi.
Vous vous souvenez de cette citation d'Oscar Wilde ? Vise la lune, car en cas d'échec, t'atterris dans les étoiles.
Ouais. Ah oui, oui, c'est très joli.
C'est de la merde. Aujourd'hui, on vise la lune et ce soir, on pique-nique dessus. Un marin, ça laisse ses problèmes sur le ponton. En d'autres mots, je ne veux pas en entendre un mouveté entre deux vagues.
Thierry Lhermitte dans Ma famille t'adore déjà, où ici il fait le parallèle avec l'aventure un peu. C'est le dossier de Alternative économique avec ce sujet sur des salariés essorés. Au-delà de l'image d'entreprise cool, les startups sont quand même un lieu qui peut être parfois violent parce que c'est assez fragile comme structure et qu'il faut une croissance rapide. Alors vous faites des conférences en entreprise, Mathieu Tordeur. Quel parallèle il y a vraiment à faire? Sans bullshit, entre vos exploits d'explorateur, vos grandes traversées en solitaire, ici, ou vos traversées au Sahara, en Asie, etc., et le travail en entreprise dans des bureaux.
Alors, sans bullshit, moi, je me considère un petit peu comme un entrepreneur, en fait, parce que tout ce que je fais, je dois trouver des partenaires, des sponsors, faire de la com, me vendre. Moi, je passe mon temps, justement, à soit préparer mes aventures, soit en parler, et finalement, très peu de temps à faire les aventures. Donc, je suis beaucoup au téléphone, à faire des mails, à faire des tableurs Excel, donc un petit peu comme des entrepreneurs, des gens en start-up. Donc, le discours que je peux porter quand je fais des conférences en entreprise, il est assez audible, en fait, parce que moi, mon quotidien en expédition, c'est de prendre des risques, c'est d'aller chercher un petit peu la performance, de me motiver. Et toutes ces thématiques, en fait, résonnent bien pour des salariés, pour des chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs. Et donc, ce que je fais en entreprise, c'est ça. J'essaye de puiser un petit peu dans mes enseignements, dans mes expéditions à droite à gauche, pour essayer de donner un petit peu des bonnes pratiques ou des conseils dans des conférences que je fais dans le milieu de l'entreprise.
Ouais. Donc, il y a des gens qui se projettent en vous, qui disent « Ouais, moi aussi, je suis pour la performance. Moi aussi, ma journée, c'est une grande traversée en solitaire. »
Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des difficultés peut-être au boulot et qui peuvent voir un petit peu dans les efforts que je fais ou les objectifs que je me fixe, une forme d'inspiration, de motivation peut-être.
Cette volonté sans faille, est-ce que ça se travaille? Est-ce que vous apprenez aussi ça, peut-être aux gens, à persévérer? Ou c'est inné? Ou c'est les deux?
Ah, je sais pas. Je pense que c'est peut-être un petit peu des deux. C'est aussi du travail. Moi, ça a été un cheminement. Je me suis pas réveillé un matin en me disant, aujourd'hui, je vais partir au pôle sud, en Antarctique, tout seul. C'était vraiment un rêve que j'ai nourri avec différentes expéditions. J'ai travaillé en m'entraînant beaucoup en Arctique, au Groenland, au Svalbard, en Norvège. J'ai fait beaucoup de courses d'ultra distance à pied, à vélo, en Ironman. Donc, tout se construit. Et je pense que, c'est peut-être aussi une passion. Enfin, je pense que quand on a la passion, qu'on a le travail, et ça fonctionne.
Ouais. Justement, cette passion-là, vous avez sans doute dû la créer par opposition à cette vie de bureau que peut-être vous avez rejeté des gamins en disant moi je Christophe Colomb plutôt que Bill Gates quoi.
Ouais, alors moi ça s'applique justement dans les aventures à caractère géographique, donc quand j'ai envie d'aller traverser un fleuve, traverser un désert, une chaîne de montagnes, ce que vous voulez, mais c'est peut-être en opposition, je sais pas, en fait c'était peut-être plutôt une quête de liberté, enfin je voulais vraiment disposer de mon temps, un peu comme quelqu'un qui crée sa start-up finalement. Alors finalement quand on crée sa start-up, peut-être qu'on a moins de temps que quand on est salarié, c'est un sujet, mais moi, ça répondait surtout à une envie de liberté, de disposer de mon temps, de faire un petit peu ce que je veux.
Si par exemple vous avez des enfants, je sais pas, mais si vous êtes amené à en avoir, est-ce qu'il vous dit, moi mon rêve c'est de faire de l'audit, tout mon respect pour les gens font de l'audit, hein, mais est-ce que vous allez lui dire, écoute, peut-être, papa il a fait 1000 fois autre chose, est-ce que tu as réfléchi à ça? Ou non, vous allez lui dire, l'audit, je pense, c'est ça qui
faut. Moi je pense qu'il faut être bien dans ses baskets. Moi je me verrais pas en faire. Si c'est une envie de faire de l'audit, pourquoi pas. Après, je pense qu'il faut faire son choix. Aussi en fonction de ses ambitions, de pas faire des choix par défaut. Alors c'est pas forcément évident, mais moi je fais ce métier là parce que je sais faire que ça finalement. Je suis pas capable de faire de l'audit.
L'audit c'est une aventure humaine, voilà. C'est aussi le collectif qui monte, et bien sûr atteindre un but là-bas,
si au
loin.
L'audit, moi c'est pas ça que je voulais dire, mais pas,
de toute façon dans les startups on est plus salarié, on est partenaire d'une aventure. Voilà le lien.
C'est
Mathieu Tordeur avec nous. On est parti très très loin, un petit peu comme s'il fallait rejoindre Hippolyte Girardeau quelque part.
La transition.
Mais personne ne l'avait vu, la transition.
Mathieu, j'ai lu un peu votre bio là. Ouais. Mais je comprends même pas comment vous êtes là en fait. Quand je pense que le 15 janvier, vous étiez après 50 jours de marche, traînant 115 kilos, le tout par moins 50, et en ayant changé une seule fois de caleçon.
Fallait pas le dire.
Quand même, c'est marqué dans la bio, une seule fois, vous m'entendez, bande de surconsommateurs de changement de caleçon.
Non, moi je fais pareil.
Rien qu'à vous regarder, moi j'ai froid, moi. Mais votre truc, on a compris, c'est l'immersion. D'ailleurs, vous racontez, c'est assez beau, qu'il arrive un moment où tout est tellement blanc autour de vous, le brouillard et la neige se confondent, que vous tombez par terre. Votre oreille interne ne comprend plus rien. Vous êtes tellement immergé dans cette Antarctique immense, désertique, quasiment extraterrestre, que vos sens humains vous lâchent. C'est sérieux votre truc, c'est très fou, très sérieux. C'est pas de la blague, c'est pas de l'immersion à la petite semaine. Hein. C'est pas comme faire le tour des temps de Quechua dans Paris pour rencontrer les SDF et voir pour de vrai ce que c'est que de vivre dehors. Hein. Surtout nuit où le printemps est là, quasiment. Hein. Même si le précise, l'annonce du gouvernement, le président est en jean. Il est en jean? Ah ouais, évidemment, il est en jean, le président. Bah oui, évidemment, il s'immerge. Mais lui, c'est le genre d'homme à changer régulièrement de caleçon, pas comme vous. Et je pense que ça aurait eu une autre gueule si on nous avait précisé qu'il n'avait pas changé de caleçon depuis une bonne semaine pour être davantage en immersion. Alors, une autre immersion que j'ai lue dans le JDD qui est à venir, c'est je crois que c'est fait hier d'ailleurs, la ministre des Transports va passer 24 heures dans le système ferroviaire. Elle va faire des réunions, des visites de gare et des réunions et des réunions. Et précise annonce, tout de même, quand même, elle va passer la nuit sur un chantier de travaux en raison. En réseau. Alors évidemment, si elle passe la nuit, ça, c'est de l'immersion. On sent que ce gouvernement a trouvé la parade à ce qualificatif de gouvernement des riches, loin du vrai peuple et des vrais problèmes. On sent que ce gouvernement n'aime pas du tout le titre du livre de François Ruffin, La France que tu ne connais pas. Il veut lui montrer à la France qu'il la connaît. Alors là, moi je dis, doucement, faut pas s'emballer, faut faire ça tout doux, on va faire ça professionnellement. Hein. On va prendre exemple sur Mathieu Tordeur, qui a préparé son expédition patiemment, a levé des fonds, choisi les bonnes chaussettes, lifter correctement ses skis et surtout trouver le bon caleçon, celui qui se nettoie tout seul. Parce que l'immersion, non, c'est pas de l'impro, ça se prépare. Et ensuite, ça se vend. Et on va prendre exemple sur les pros. Bonjour à tous et à toutes, voici les épreuves que nos candidats vont franchir dans des conditions d'immersion totale dans l'île de France lambda. Les gagnants auront droit à une deuxième saison après l'épreuve du remaniement. Mais d'abord, je vous présente nos candidats. De Rugy, qui va s'immerger totalement dans un épandage de glyphosate, sans masque et sans gants. Castaner, qui va s'immerger en gilet jaune dans une grande manifestation entièrement contrôlée par les forces de l'ordre, épuisé et vénère. Le maire, qui va s'immerger dans une usine qui ne trouve pas de repreneur et qui va être délocalisé. Blanquer, qui va s'immerger dans une classe de banlieue et les conduire vers Paris en passant devant un cordon de policiers Gare du Nord. Et Darmanin, qui va s'immerger dans la chenille uniquement occupée par des labradors qui ne se prennent pas pour Amélie de Montchalin. Et enfin, Nicole Belloubet, qui va, elle, s'immerger en hijab de sport dans un marathon féminin. Bonne chance à tous nos candidats qui, je vous le rappelle, sont en jean et avec un seul caleçon.
Hippolyte Girardot, c'est la musique de Koh-Lanta. C'est ce gouvernement, c'est un peu rendez-vous interinconnu quand même aussi.
C'est les pas, deux. Je ne connais pas cette émission, mais tout le monde connaît.
On va découvrir que l'antimacronisme primaire.
Ouais, je crois aussi que ça c'est. Ouais. Ouais, c'est pas bien.
Là, c'est ce qu'on se rapproche.
Merci, Pauline Girardot. Mathieu Tordeur est avec nous, l'explorateur. Et on va aborder ce dernier sujet ensemble, car on est seul. On meurt seul. Et entre les deux, maintenant, on voyage seul. Oui, de plus en plus. Après une séparation, la perte d'un emploi ou tout simplement cette génération Erasmus qui a déjà goûté à l'expatriation en solo et qui goûte donc au voyage en solitaire, le nombre de ces voyageurs augmente.
Moi, je préfère rester toute seule.
Ah, ça, c'est un bon son.
Là, ça sème pour Laurie.
T'en as besoin.
Ah, Mathieu Tordeur, il chantait ça. Je suis sûr que vous chantiez ça.
C'était pas dans ma playlist.
C'était pas dans ma playlist.
Vous l'aviez oublié.
Qu'est-ce qu'il y avait sur votre playlist, par exemple? Est-ce qu'il y a des chansons que vous écoutiez en boucle?
Non, ça, ça c'est vite. Hein, parce que 12 heures de ski par jour pendant 51 jours, il fallait avoir des podcasts.
Alors, voilà pour ce sujet. Effectivement, il y a de plus en plus de vacanciers qui partent seuls pour diverses raisons. Mathieu Tordeur, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en vacances?
C'est une bonne question. Parce que je passe mon temps un peu à droite à gauche quand je suis en vacances. J'aime bien retourner dans les endroits que je connais de mon enfance.
Donc RRC,
un peu la famille, la Bretagne, maison familiale, des copains.
D'accord. Ouais, donc là, je veux dire, en groupe, enfin en famille, famille quoi, justement.
Plutôt.
Quels sont les bienfaits du voyage en solitaire?
Moi, je pense que quand on voyage seul, c'est un voyage un peu avec soi-même aussi, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses sur soi. On est beaucoup plus ouvert aux autres. Moi, quand je pars seul, en tout cas, je pars pour ne jamais l'être. J'aime pas être seul au resto, aller seul prendre un train ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est de toujours partir pour faire des rencontres et dire oui un petit peu à tout. Donc, je pense que les gens qui partent seuls, ils partent
la Thaïlande,
surtout pour.
Conseille. Très très belle destination pour ça.
Ah, ça c'est vrai.
Autant pour moi.
Non, c'est vrai. À part votre votre voyage en Antarctique, vous étiez seul quand vous menez des expéditions, par exemple l'Asie centrale à vélo, etc. Ouais. Vous rencontrez. Quand on voyage seul, on rencontre un max de personnes.
Ouais, et puis moi je pars souvent avec des objectifs photographiques. J'étais parti au nord de l'Irak faire des photos, au Pakistan aussi, en Asie centrale, pour en fait faire des photos, rencontrer du monde. Et c'est les meilleurs moyens en fait, plutôt que de débarquer à quatre copains. C'est compliqué de faire des rencontres un peu sincères, de prendre le temps de les faire quand on est plusieurs. Donc quand on est tout seul, je pense qu'on part avec un objectif perso ou un objectif de photo comme je le fait. Quand on est à plusieurs, c'est plutôt une aventure commune, une histoire d'amitié entre plusieurs personnes qui se crée ou qui se développe.
Le voyage seul paraît égoïste sur le papier, mais le résultat, c'est que justement, c'est la manière de rencontrer les autres.
Ouais, c'est plus simple. À mon sens, c'est plus simple de voyager seul pour faire des rencontres.
Et qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, le soir, ou comment vous occupiez l'esprit, le peu de temps que vous aviez pour vous reposer?
En Antarctique.
En Antarctique, par exemple.
J'avais déjà très peu de temps parce que les conditions étaient compliquées cette année en Antarctique et j'ai vraiment dû maximiser mon temps de ski. Donc, c'était 12 heures de ski par jour. Le soir, quand le soir venait, en fait, je montais ma tente, je faisais fondre ma glace. Mm-hmm. J'envoyais un petit post via téléphone satellite sur les réseaux sociaux et puis après j'essaie de dormir.
Il faisait jour en permanence?
Il faisait jour en permanence, ouais. Enfin, ouais. C'est l'été austral, donc il y a 24 heures d'ensoleillement par jour.
Et vous avez emmené musique, podcast?
Ouais, musique, podcast.
Lecture, il y avait sur votre...
Non, pas de lecture, parce qu'en fait il fait assez froid et du coup la lecture c'est un peu les mains en l'air et donc on a rapidement au doigt. Et puis en fait je voulais vraiment maximiser mon temps, je me divertissais en écoutant des podcasts, plus que de la lecture dans le sac de couchage.
Mathieu Tordeur, jeune explorateur, avec nous, on va vous proposer de faire quelque chose que je ne sais pas si vous avez déjà fait, comédien un petit peu.
Ah non. Et attention, c'est pas n'importe quelle exploration qu'on va faire. Laurent Wauquiez a passé plus de 20 heures au Salon de l'Agriculture, en deux jours, faut quand même le dire. Alors il a joué l'expert du monde agricole, il connaît hyper bien tout, alors qu'il a plutôt grandi en ville. Alors comment ça s'est réellement passé? Guillaume Meurice, vous êtes Laurent Wauquiez, oui. Mathieu, vous êtes son coach, et Charline et moi, on est agriculteurs.
Allez, c'est parti pour la visite.
Oui, mais c'est quoi cette tenue?
Ah bah oui, j'ai voulu faire local.
Avec une salopette et un chapeau de paille?
Bah ouais, parce que dans le livre de ma fille, les fermiers, ils sont habillés comme ça, donc...
Mais non, ça c'est pas possible.
Non, non, on s'en fiche, ce qui compte, c'est que je batte le record de Macron. Je veux avoir le record du temps passé au salon de l'agriculture, en solitaire et sans ravitaillement.
Ah, vous voulez être le Mathieu Tordeur de la politique?
C'est ça, exactement.
Ok, la technique, c'est de faire l'inverse de Chirac.
Ah, d'accord, d'être honnête?
Hein?
Non, rien, c'est une blague qu'on faisait au RPR à l'époque.
L'idée, c'est de ne pas manger ni boire à chaque stand.
Ah, bah ça, je risque pas de toucher quoi que ce soit, j'ai pas fait mes vaccins, donc...
Non, non, ne les prenez pas de haut. Vous placez les mots clés et vous faites semblant de venir du monde agricole.
Ah oui, alors ça, je sais faire ça, j'ai déjà fait semblant de connaître Sœur Emmanuelle, donc...
Bonjour, monsieur Wauquiez.
Ah, bonjour, monsieur.
Non, c'est madame.
Ah oui, ouais. Madame, rapport, d'accord. Maintenant que vous le dites, effectivement. Mais avec la combinaison et les bottes, bon, on a du mal à faire la différence.
Ça va être long.
Vos vaches, elles sont charolaises, non? On les reconnaît parce que c'est une race qui a beaucoup de caractère.
Non.
Elles sont pas charolaises?
Non, c'est pas des vaches, c'est des moutons.
Ah oui, maintenant que vous le dites, d'accord, rapport au tout ce qui est. D'accord. Et ça pousse où les moutons? C'est en région PACA, non?
Non, mais ça pousse pas, ce sont les animaux, c'est l'élevage.
D'accord, parce que je pensais que la laine de mouton, ça poussait dans les arbres comme le coton, quoi.
Bon, allez, faites comme on a dit, parlez-lui de la profondeur de bassin.
D'accord, ah oui. Alors en tout cas, madame, je dois bien le dire, vous avez une très très bonne profondeur de bassin.
Ah quoi?
Non, celle du mouton. Ah. Bon, laissez tomber, on va passer au stand suivant.
Ah, dommage, parce que je sentais que ça accrochait bien avec la dame.
Alors ici, nous avons un éleveur de vaches.
Ah, bonjour, monsieur, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Ok, ouais, j'ai tout de suite vu, parce que vous avez un peu plus de poils au menton que la dame d'avant. Donc,
Non, vous ne pouvez pas dire ça. Alors dites-nous, monsieur, vous élevez quoi?
J'ai un élevage de 50 de limousines.
Ah, bah vous devez avoir un grand garage.
Non, il parle des vaches limousines.
Ah non, mais je plaisante, on a le droit de rigoler un peu quand même, non?
Oui, d'accord.
Bon, c'est pas tout, mais ça se sent quand même un petit peu fort, là. Hein.
Ouais, on va bouger. Vous voulez aller où?
Bah, on peut changer si on allait au stand des pingouins, par exemple.
Merci Mathieu Tordeur. Je rappelle que vous êtes arrivé dimanche 13 janvier à 12h15, devenant le premier Français et le plus jeune explorateur au monde à avoir relié la côte terrestre de l'Antarctique au pôle sud, en solitaire, à pied, sans ravitaillement. Et le documentaire, ce sera sur Ushuaïa TV le 5 juin. Et puis on peut toujours se procurer votre livre sur votre tour du monde du microcrédit en 4L avec Nicolas Aubert aux éditions Magellan et compagnie. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous rencontrer Mathieu Tordeur. On vous suivra désormais de près. Merci à tous les amis autour de cette table, merci aux auditeurs. Mathieu Tordeur, on va vous laisser le mot de la fin, ce que vous avez déclaré le jour où vous êtes arrivé, le fameux dimanche 13 janvier.
Il y a eu un moment où je me suis sentie tellement seule que je voulais me tuer.